France Inter. Bienvenue dans l'humour d'Inter, l'hebdo. Comme chaque samedi, je vous prépare une sélection du meilleur des chroniques humour de la semaine. Et aujourd'hui, vous allez entendre un Jonathan Lambert qui fait subtilement du pied à ses marques préférées.
Comment ne pas évoquer les carrés Hermès ? Ces jolis foulards de soie fabriqués par un petit cellier de la rue Saint-Honoré dont j'aurais bien besoin pour me tenir chaud d'ici le printemps, mais je m'égare.
Marie de Breuer revient sur le projet d'adaptation de la vie de Gisèle Pellicot en série télé. Mais pourquoi pas en comédie musicale aussi ?
Nous sommes les jurés, nous sommes indignés.
Ahmed Sparrow nous parle de la nouvelle obsession de Donald Trump, le Groenland.
Bonjour, échange deux îles tropicales contre territoire glacé, prix négociable et frais de port à ma charge.
Et d'une dystopie à l'autre, nous ferons un petit détour par 1977 pour écouter un extrait de la fiction radiophonique de Jean-Yann, L'Apocalypse est pour demain.
Je ne sais pourquoi j'enregistre ce récit, personne ne l'entendra jamais. Ou alors quelque explorateur venu d'une lointaine planète, puisqu'il n'y a plus personne sur cette terre.
Et ce n'est pas un, mais deux humoristes de la chaîne qui me rejoignent aujourd'hui. Emma Beaujean, on t'entend depuis la rentrée dans l'émission Nagui et Leïla Kadour, salut.
Salut,
merci
bonjour.
D'être là.
Bah, merci de m'avoir invité.
Et puis avec nous aussi, Alexis Le Rossignol, salut Alexis.
Oui, bonjour.
Toi aussi t'as débuté... Quelle voix sexy. Toi aussi t'as débuté dans la bande originale et désormais tu reviens de temps en temps dans la matinale.
De temps en temps, ça me va
très bien. Merci d'être là. Dans cette émission, on va parler ensemble de comédie française, on va faire le point sur l'actu et puis on se demandera si arborer un bonnet et une barbe, c'est criminel. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez l'humour d'Inter, l'hebdo. Bienvenue chez vous.
L'humour d'Inter, l'hebdo.
Ceci est une émission de radio.
Et on commence avec une enquête exclusive sortie dans Libé cette semaine, revue par le Suisse Bruno Pecky. C'était jeudi dans la bande originale.
J'ai appris dans Libé qu'un nouveau club privé d'extrême droite identitaire allait ouvrir à Paris. L'occasion pour moi de vous faire un petit top 10 de mes meilleurs clubs xénophobes de Paris.
Ouais.
Ah bah non, je peux pas, parce que ce club sera réservé aux Européens. Ah, et vu que la Suisse fait pas partie de l'Europe, je peux pas y aller. Ah. Scandale, quoi. Quand t'arrives au point d'être raciste envers les Suisses, c'est que vraiment t'es d'extrême droite et extrêmement pauvre. Et moi, j'ai déjà croisé un facho. Hein. Quand je lui ai dit que j'étais un étranger, il m'a demandé si j'étais illégal. J'ai dit non, je suis un Suisse qui bosse en France. Il m'a répondu, ah, en fait, t'es juste B. Il m'a demandé pourquoi j'étais en France. J'ai répondu pour être humoriste et parce que ma copine est française. Il m'a dit, c'est ce que je pensais. Tous les mêmes. Toi aussi, t'es venu pour prendre notre travail et voler nos femmes. Franchement, il a raison, quoi. Il a raison. Bref, donc je vais pas pouvoir aller dans ce nouveau club privé, mais j'imagine que c'est comme un club normal. Sauf qu'à l'entrée, on ne te demande pas ta carte d'identité pour vérifier si t'es majeur, mais si t'es en règle. Mm. Et sûrement que t'as les mêmes choses que dans la plupart des bars. Hein. Les cocktails sont nommés d'après les noms de personnalités inspirantes. Ah. T'as le cocktail Jean-Marie Le Pen, c'est que des boissons gazeuses mélangées. Ou encore le Elon Musk, que tu dois boire le bras tendu. Voilà, pas simple. Hein. Tu dois te verser dans la bouche depuis tout en haut. On dirait que tu te sers du thé à Marrakech. Quoi. Leur dites pas que j'ai fait cette comparaison, ils vont pas aimer. Bon, en fait, le club n'existe pas encore, mais ses créateurs se sont retrouvés pour faire un dîner de levée de fonds à Paris dans le 3e arrondissement. Hein, oh. Je précise parce qu'eux, ils parlent en Reich. Donc, je suis sûr qu'ils devaient être là. Ils devaient être là. Cette levée de fonds serait beaucoup plus simple si on n'avait pas interdit tous les membres juifs. Et cette rencontre s'est déroulée. Il y a eu une petite seconde où j'ai peur. Merci de m'avoir. Et cette rencontre s'est déroulée en novembre dernier dans les sous-sols du club du musée de la chasse. Oh là là, trop d'informations. Première question.
J'aime trop ce lieu.
Il y a un musée de la chasse que t'aimes en plus. C'est là. C'est deuxième question. Mais on en parlera après. Mais deuxième question. Il y a un club du musée de la chasse. Je veux dire, à Paris. Mais tu chasses quoi? Le surmulot? Le livreur des livres rouges? Je veux dire. Troisième question. C'est quoi les dingueries qui doivent se dire pour ne pas être autorisés à entrer au rez-de-chaussée du club du musée de la chasse? En fait, ils étaient dans des locaux qui appartiennent à la fondation François Sommer. Alors, si vous avez un flashback traumatique à l'évocation du nom Sommer, c'est normal. C'est le nom du gardien de l'équipe suisse qui a arrêté le pénalty de Mbappé en 8e de finale de l'Euro 2020. Cette info a rien à voir avec le sujet. Mais ça me fait toujours plaisir de la ressortir. Je voulais quand même pas perdre une occasion facile, hein, contrairement à certains Mbappé en 8e de finale de l'Euro. Bref, ce nouveau club va être créé par l'Iliade, un institut qui vise à former les nouvelles générations d'extrême droite, d'activistes.
L'Iliade.
Ouais. Alors, Iliade, c'est en référence à l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui selon eux serait la Bible des Européens. Bref, je veux dire, pour des gens qui refusent d'accueillir les bateaux de migrants, c'est quand même bizarre qu'ils idolâtrent un mec qui a fait une épopée en mer de 10 ans, quoi. Ulysse, à son retour, les types d'extrême droite, il l'aurait pas accueilli à bras ouverts, quoi. Il serait là. Alors, il a quand même bien bronzé sur son bateau, on va voir d'où il vient. Bon, mais vu que leur club sera, je les cite, un espace d'intelligence.
Oh là.
Voilà, ça c'était la meilleure blague de ma chronique et je ne suis même pas l'auteur. Donc, en général, quand tu as besoin de préciser que ce sera intelligent, c'est déjà pas bon signe. Hein. C'est comme quand on dit, la bande originale, c'est une bande originale. Ouais. Alors, il y avait du lourd parmi les invités de ce dîner, notamment Alice Cordier, qui est une influenceuse d'extrême droite. Deux trucs que séparément je ne supporte pas, mais alors les deux ensemble, une influenceuse d'extrême droite, c'est l'équivalent des endives au jambon pour un musulman, quoi. Ou d'une influenceuse d'extrême droite pour un musulman. Ouais. Alors le club sera financé par des dons et la vente de livres et de goodies. Donc voilà, Old Olaf, je t'ai commandé le best-of de jeux de mots de Papy Le Pen, comme Durafour crématoire. Ça alimentera tes chroniques. Pour Lisa, il y a une photo de la chatte de Marine Le Pen.
Oh,
non, l'animal. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Non.
Et tout ça au centre de Paris, quoi. En tout cas, j'espère qu'on fera pas la fête de fin d'année de l'émission là-bas. Pas du tout pour des raisons éthiques. Non, mais pas pour des raisons éthiques. Hein. Juste parce que si les Suisses, les Arabes et les Juifs rentrent pas, il y aura que Lisa Delmoitier et Daniel Morin qui s'enfilent des morts Hitler et des Gestapolitano au bar. Ça va mal finir, toi.
Je suis une grande fan des jeux de mots, j'ai beaucoup aimé cette fin. Merci Bruno Pecky, vous le retrouvez probablement pas au Cercle Europa les mercredis à 11h50, mais dans la bande originale. Autour de la table, les humoristes Emma Beaujean et Alexis Le Rossignol qui se connaissent parce que vous avez fait, Emma, t'as fait la première partie d'Alexis.
Ouais, j'étais ouvreuse au théâtre Le République, c'était en 2022. J'avais vraiment pas d'expérience en stand-up et en fait, petit à petit j'ouvrais pour des spectacles et j'avais fait pareil avec Thomas Marty aussi et petit à petit j'essayais de gratter en fait des premières parties.
Bien sûr.
Je me disais attends, je peux le faire évidemment. Non, mais
donc tu disais aux gens votre place c'est celle-ci.
Ouais.
J'attends pour voir et à tout de suite sur scène.
Est-ce que tu ouvrais les jours où tu faisais la première partie?
Ouais, absolument. Ah, ouais. Wow. Et en plus des fois j'ouvrais en haut, je montais sur scène, j'ouvrais en bas, je montais sur scène.
Parce qu'il y a deux salles.
Oui, et c'était, puis en plus c'était l'époque du masque et du coup de toute façon il fallait que je fasse une annonce masque puisque j'étais ouvreuse et que c'était la responsabilité de l'ouvreuse de le faire, de monter sur scène, de dire merci de garder vos masques, d'éteindre vos téléphones et pas applaudissements. C'était cool, c'était chouette, on s'est rencontrés comme ça.
Je vais quand même te présenter Emma, donc t'es une jeune humoriste de 23 ans, alors je sais que ça doit être pénible à entendre, tu sais, quand on te dit tout le temps que t'es jeune, mais parce que surtout que t'es drôle et talentueuse surtout, mais c'est vrai que
puis
moi quand
durera
j'ai
pas.
Ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé l'humour t'avais 7 ans, voilà. Donc, ta présence est une petite forme d'humiliation. Tu émerges sur les réseaux sociaux, tu montes sur scène depuis 2 ans seulement, et pardon, mais t'es inox tag ou quoi? Parce que je crois que tu fais une ascension spectaculaire. Pardon, je suis boumeuse. Grosse boumeuse. Depuis septembre, tu es chroniqueuse chez Nagui et Leïla Kadour. J'imagine que tu te rappelles de ta première chronique, c'était il n'y a pas longtemps.
Oui, absolument, je me souviens. J'étais trop contente et c'est aussi en partie absolument grâce à Alexis qu'on m'a appelée.
C'est fou parce qu'on vous a réunis par hasard.
C'est moi qui ai filé le numéro. Chaque petite action, petit effet papillon. Ouais. Et littéralement, des chroniques sur Inter, c'est l'intitulé de mon rêve depuis que j'ai 7 ans. Mais littéralement, à 7 ans, c'est la première fois qu'il fallait remplir une fiche navette et qu'il fallait dire à l'école ce qu'on voulait faire. Littéralement, j'avais mis chroniqueuse sur France
mais
Inter.
Non.
Au côté d'Alexis Le Rossignol, presque.
J'ai pas 75 ans non plus.
Je me dis, il fera plus l'antenne à ce moment. Donc j'étais trop stressée parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas trop tôt pour réaliser mon rêve, l'endroit où je suis. Et donc, je me suis dit, justement, pour cette première chronique, dans le doute, je vais faire ma dernière chronique, ce qui n'était pas très original, mais je me dis, ça n'a jamais été fait par moi, donc finalement, c'est original.
Et ça a marché. Et d'ailleurs, tu as failli croiser sur ce plateau même Alexis Le Rossignol. Maintenant, Alexis, les auditeurs, les auditrices te retrouvent régulièrement en joker dans la matinale. Après 300 chroniques dans la bande originale, où tu as débuté en 2018, tu es humoriste, auteur, créateur de contenu, producteur de spectacles, tu as fait une école de commerce, tu as décidé de rejoindre la Chine à pied, tu as aussi été crépier au Mexique, on dirait que tout est faux, mais tout est vrai. Tu passes tes étés à jouer partout en Bretagne dans un bus pour ta tournée, le Brace Comedy Tour. Le reste du temps, tu retapes ta maison, Alexis. T'es un gars normal qui cherche le sens de la vie. Mais est-ce que tu l'as pas un petit peu trouvé en passant ton samedi après-midi avec Emma et moi?
Oui, tout à fait. Non, mais moi, je suis un vrai passionné éphémère. C'est que j'ai des passions qui sont très, très brèves. Donc, je me lasse et puis je passe à autre chose.
C'était quoi ta dernière passion éphémère?
Voilà, le bricolage. Je me suis mis à fond dedans pendant 4 mois. J'ai passé beaucoup de temps chez Leroy Merlin. Et comme je suis très indécis, parfois je changeais de Leroy Merlin parce que j'avais honte que les gens me voient passer du temps dans Leroy Merlin et rien acheter.
Mais tu te rappelles de ta première chronique, toi, en 2018?
Oui, exactement. C'était le 26 août 2018. Je me souviens très bien parce que le 23, je devais être encore en vacances. Et puis, on m'appelle pour faire une chronique. Et alors là, moi, j'avais pas du tout l'ambition de, mais je trouvais ça super. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ils m'ont demandé, je me souviens, de faire le sketch des roulés au jambon, qui était un sketch que je faisais sur scène, un truc très lent, un peu décalé et absurde. Et en fait, de le faire en format radio. parce que, ça, étant donné que je savais le faire sur scène, ils se disaient, ça pourrait être bien de commencer par ça à la radio. C'est ce que j'ai fait. Et mais depuis, c'est vrai que c'est un sketch que les gens me réclament de temps en temps.
C'est ton tube ?
Un peu, après il y a eu le flan, le miel, enfin tous ces trucs-là,
voilà, c'est vraiment bouffe, quoi. Un humour qui est très très basé sur la nourriture,
très,
j'adore.
Très basé sur la bouffe.
On se retrouve dans quelques instants pour décortiquer l'actu, mais avant ça, réfléchissons à notre ère numérique, c'est biche, le code. Sorti hier et c'est déjà en playlist sur France Inter, c'était Biche, le code.
Marine Baousson, l'humour d'Inter, l'hebdo.
L'émission dans laquelle on rattrape le meilleur des chroniques humour de la semaine. Je suis toujours avec Emma Beaujean et Alexis Le Rossignol. Dans quelques minutes, on va faire une petite revue de presse. Mais juste avant ça, ce qui a marqué Marie de Breuer ce lundi, c'était le projet d'adaptation d'une biographie de Gisèle Pellicot en série Netflix.
Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça dans ma main ? La décence ? Et oui, ma main est vide, parce que la décence a disparu. Oh. Quelqu'un a des nouvelles de la décence ? Pas moi. Alors que la maison d'édition Flammarion est en négociation pour publier la biographie de Gisèle Pellicot, le géant Netflix voudrait déjà l'adapter à l'écran. À ce rythme-là, l'année prochaine, on aura la comédie musicale, Mazan The Musical. Oh, j'entends déjà les producteurs de Broadway pitcher le projet. Oh, moi, je veux bien m'y coller, hein, parce que je sais faire les gros coups avec un maximum d'oseille. Et j'adore le féminisme. Ça tombe à pic. J'adore le féminisme, évidemment. On peut me faire confiance pour traiter des sujets épineux tout en restant jazz. J'avais adapté La vie d'Hitler dans le musical Shoah Must Go On, voilà, avec des reprises de Queen en allemand. Énorme carton, on s'entêtait mis plein les poches. Puis on dénonçait quand même le nazisme, évidemment. Bon, puis après, j'ai fait La vie de Christophe Colomb. Bon là ça fait un flop, ça s'appelait Le Grand Colon, je crois que les gens n'ont pas compris le côté historique, ils sont restés focus sur le côté gastrique. Bon, mais Mazan The Musical, je le sens bien, on va se faire aussi des couilles en or et dénoncer des trucs graves, évidemment. Oh putain, mais quel cauchemar, quel enfer. Le pire c'est qu'elle pourrait marcher, cette comédie musicale. L'album ferait triple disque de platine avec les tubes 13 à la douzaine, Il y a viol et viol, T'aimes Stralala, c'est gênant. Et pour les castings, ils se diraient quoi ? Eh ben, dans le rôle de Gisèle, je te fous Virginie Efira. Voilà, on l'attend en rousse, on s'en branle. En ce moment, elle tourne le biopic de Gisèle Halimi, donc foutons-lui toutes les Gisèles. Ça sera un bon moyen mémotechnique. Et dans le rôle de Dominique Pellicot, j'avais pensé à Hugh Jackman. Bon, il sait tout faire, le gars, il chante, il danse, il a des griffes dans les mains. Tu lui fous un postiche poivre et sel sur le crâne et une boîte de Temesta dans la main droite, il va être nickel. Pom, 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 pom. Oui, je vous propose une chanson. chanson de Mazan The Musical, c'est une fin de carrière pour Marie de Broglie. Pom 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 pom. Monsieur le procureur, je suis un des avocats de la défense. Oui, monsieur, je vous le dis, mon client est innocent, innocent, innocent. Il ne savait pas que Gisèle n'était pas consentante, consentante, consentante. Pom 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 pom. Monsieur le juge, je le pense, il y a viol et viol. Mais qu'a-t-il dit ? L'avocat de la défense, qu'a-t-il dit ? Viol et viol, viol et viol, viol et viol. Nous sommes les jurés, nous sommes indignés. Viol et viol, viol et viol, viol et viol. Et là, putain, scène de fin, j'ai une idée de génie, là. La scéno du procès, tu fous une chorale avec les 50 violeurs en slip. Bon, ça a coûté un budget, hein, mais je fais des économies sur, sur les costumes. Et ils nous font une version a cappella d'Alizée. C'est pas ma faute, à moi. Et là, on casse le quatrième mur, on file des pantoufles au public qui pourrait les jeter au visage de ces bâtards. Oh putain, on va l'avoir ce Tony Award, on va s'en foutre plein les fouilles et dénoncer, hein, évidemment, le nazisme. Ah non, attendez, c'est le sexisme là, bien sûr, évidemment. Oui. Bon voilà, c'était une chronique humoristique, oui, mais c'était aussi une chronique pour dénoncer le cynisme, hein, évidemment.
Marie de Brouwer, The Musical, prenez vos billets, c'est chaque jour du lundi au jeudi dans Zoom Zoom Zen à 17h30. Vous lisez la presse, Alexis, Emma, pour préparer vos chroniques ?
Ouais, moi j'aime bien lire la presse, ouais, effectivement. Pas forcément pour les chroniques, mais voilà.
Juste pour t'informer, ouais, du monde, ouais. Ça c'est bien. Emma ?
Ouais, pas du tout, je n'ai aucune curiosité. Non, jamais, parce que, alors, littéralement, donc, pour mes chroniques, ça ne me sert à rien. Parce que je fais jamais d'actu, même sur scène, je fais jamais d'actu. Mais l'actu, enfin, m'informe quoi qu'il arrive, quoi. Tu vois, forcément, j'entends, je comprends.
T'as Instagram,
oui,
pas,
voilà, j'ai Internet, en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Mais sinon, non.
Bon, bah, je me suis dit qu'on pouvait revoir l'actu de la semaine ensemble. Par exemple, Emma, Cache Investigation a encore sévi ce jeudi avec la diffusion d'un reportage édifiant sur la famille Mullier qui possède Auchan, Leroy Merlin, Decathlon ou encore Kiabi. Si Élise Lucet débarquait chez toi, Emma, quelles questions embarrassantes pourrait-elle te poser pour te foutre dans la panade? Je dis la panade, je l'assume.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu caches au monde, Emma ?
Franchement, déjà, elle passerait par ma cuisine et elle verrait à côté du tri les cartons énormes de Coca Zéro. La honte. Je me mets, mais je fais beaucoup de Coca Zéro dans le sang tous les jours, quoi. C'est honteux pour ma santé, c'est honteux pour l'environnement, c'est de la merde, mais vraiment,
je vais rajouter une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai vu une hypnotiseuse pour arrêter et ça a marché.
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai. Ah, donc je te conseille.
Maintenant, elle boit du Coca normal.
Maintenant, je suis au Pepsi, en fait. Mais ok, j'y penserai.
Alexis, j'ai lu dans Marianne que Cyril Hanouna songe à l'élection présidentielle. S'il peut le faire, je pense que tu peux le faire aussi. C'est quoi ton slogan ? C'est quoi ton programme, Alexis ?
Voilà. Je sais pas, un truc du genre « Ne comptez pas sur moi et je vous décevrai pas », un truc comme ça, tu vois.
C'est bien.
N'attendez rien de moi et vous serez pas déçus. Voilà.
Pour tous les deux également, on va terminer par une liste. J'ai lu sur le HuffPost que les jeans peuvent être portés 15 à 30 fois avant d'être lavés. Vous saviez cette information ?
Ouais, ça allait.
Et alors, tu les laves tous les combien de fois ?
Mais moi, on m'a dit une fois carrément qu'un jean s'auto-lavait.
Ah d'accord,
voilà,
mais qui t'a dit ça ? C'est ça qui est intéressant.
C'est Didier Raoul sûrement, quelqu'un qui s'y connaît en bactéries.
Voilà, exactement.
On va faire ensemble la liste des trucs qu'on lave clairement pas assez, selon vous.
Alors, après la caisse de mon chat, non, je sais pas, les trucs qu'on lave pas assez.
Il y a une partie derrière les toilettes assez inaccessible.
Oui,
quand j'ai repeint récemment, je dis « Oh là là !» Ah ouais, ça c'est
rare. C'est un endroit perdu.
C'est comme le dessous de lit, les draps du lit aussi parfois.
Ouais,
la tête
d'oreiller, ouais.
Tête d'oreiller, toutes ces choses-là.
Moi j'ai l'intérieur des nombrils.
Ah, yes.
Ah, ça, c'est un truc que je fais. Ça et entre mes orteils.
Ah, wow.
Ouais.
Ça, tu prends vraiment soin de toi.
Ouais.
Non,
ouais.
C'est de l'égocentrisme. Du nombrilisme.
Toujours mon nombril.
Bon, mais là, tu sais aussi Donald Trump. D'ailleurs, on en est à un point où c'est quasiment Donald Trump. Oui, c'est ça. Dans Zoom Zoom Zen mercredi, Mathieu Noël se demandait pourquoi le Groenland est au cœur des convoitises trumpistes. La réponse d'Ahmed Sparrow.
Salut tout le monde. Alors, avant de commencer, ça va ?
Ah oui,
ouais. Mon look vous plaît ?
Grave.
Ouais, j'ai taillé la barbe et tout, et puis j'étais obligé. Hein. Ah, j'ai pas envie de me faire traiter d'islamiste par Nathalie Lachouette et compagnie. Hein. Non, ces gens-là, c'est des oiseaux de haute altitude. Hein. Et qui dit haute altitude dit cerveau moins oxygéné. Du coup, très teubé, du coup, très raciste. Ah bah, je fais comme eux, hein, je fais des raccourcis. Hein. Donc, je voudrais commencer cette chronique par une pensée pour mon collègue Merwan Ben Lazar, qui subit une vague de harcèlement en ligne depuis qu'il a fait une chronique dans C'est à vous. Vraiment. Ça m'a vraiment mis un coup parce que ça montre à quel point dans ce pays, personne ne regarde Zoom Zoom Zen, en fait. Non, mais ça fait 5 mois qu'il est là, il fait des chroniques, personne n'a réagi.
Pour nous.
On est moins regardé qu'un repas avec Babette sur France 5. La honte.
le Groenland. Donald Trump le veut. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses. Ça lui manque de jouer aux cow-boys et aux indiens, et comme il n'y a presque plus d'indiens, voilà, il s'est dit, les Inuits, c'est des indiens des neiges, ça peut passer. Alors c'est ça, ou alors il veut plus de glaçons dans son coca. Lui, il a regardé le planisphère, il a vu un gros glaçon pas loin, et s'est dit, je vais prendre ça. En plus, il y a des ours polaires, c'est Coca-Cola, Coca-Cola, c'est nous, donc Groenland, c'est nous. Je vous ai dit, hein, oiseau de haute altitude. Heureusement qu'il ne regarde pas ses tabous, Trump, je vous le dis. Non, mais il ne faut pas le laisser prendre le Groenland. Il va meubler ça n'importe comment, ça va être de mauvais goût. Il va construire un grand igloo casino avec écrit Trump. Il va ramener son pote Elon Musk, il va faire des saluts problématiques et se justifier bizarrement. Il va dire, non, mais j'ai pas dit hi, j'ai dit hi all. Bonjour à tous, je l'ai juste dit un peu vite en envoyant mon cœur de façon agressive. Et l'accent, c'est parce que je viens d'Afrique du Sud. Donc arrêtez de dire que c'est allemand, vous allez provoquer mon fureur. Ma fureur, pardon. Là, Trump, il reçoit Netanyahou, il va pouvoir lui demander des tips sur comment grappiller des terres. Hein. Trump qui demande conseil à Netanyahou, c'est Carlos Ghosn qui se fait conseiller par les Balkany. Ouais, cette nuit, il a dit, il veut faire de Gaza la nouvelle Côte d'Azur. Désolé, j'ai pas trouvé de blague à cette phrase, voilà, c'est quand même exceptionnel ce qu'il dit. Ça fait longtemps que les Américains, ils veulent le Groenland. Ouais. En 1910, ils avaient proposé aux Danois, ils ont dit, on vous donne des îles, vers les Philippines, vous nous donnez le Groenland. Donc en fait, pour les Américains, les humains, c'est des cartes Pokémon, en fait. C'est une annonce, le bon coin. Bonjour, échange deux îles tropicales contre territoire glacé, prix négociable et frais de port à ma charge. En 1946, ils ont quand même essayé de racheter le Groenland au Danemark pour 100 millions de dollars. Voilà, c'est moins cher que Mbappé, hein, faut le savoir. Ah, c'est fou. Ouais. En tout cas, vu que Trump voit le monde comme une liste Century 21, ouais, ça risque de changer ses visites diplomatiques, hein, c'est vrai. Hein. Plus personne voudra lui montrer les bons côtés de son pays, de peur qu'il veuille l'acheter. Ah, il va venir en France, on va l'accueillir à Melun. Voilà, vous avez la gare, là vous avez la mairie, là c'est Lidl. Voilà, ça vous intéresse ? Non ? Oh, dommage. Allez, bonne soirée. Voilà, en tout cas, dites à Trump qu'un territoire froid avec des roues dedans, ça existe déjà et ça s'appelle Poudlard. Merci de m'avoir écouté, messieurs.
C'était le magique Ahmed Sparrow. Il est tous les mercredis à 16h55 dans Zoom Zoom Zen. Emma, Alexis, Ahmed vient d'aborder la situation de notre collègue de Zoom Zoom Zen, Merwan Ben Lazar. Il subit actuellement une vague de harcèlement terrible depuis une chronique sur le football dans l'émission C'est à vous, parce qu'il portait une barbe et un bonnet, donc en gros parce qu'il est arabe et qu'il ressemble à un arabe, quoi. On est passé de « on peut plus rien dire » à « on peut plus rien porter », carrément.
Ouais, non, mais ça c'est un peu les spirales actuelles là, qui se mettent en route parfois, c'est une petite étincelle et puis après ça prend et puis les chaînes info relais. On dirait un peu parfois qu'il y a des apporteurs d'affaires de nouveautés à balancer au niveau des chaînes info qui elles s'en délectent parce que ça fait de l'audience. Puis après on passera à autre chose assez vite, c'est des choses comme ça, c'est assez éphémère, c'est brutal, c'est violent. Mais c'est des phénomènes assez connus en fait qui font que ça fait monter un peu cette peur qui est finalement assez porteuse au niveau électoraliste pour le RN par exemple. Donc voilà, franchement il n'y a rien de nouveau et ça tombe sur Merwan malheureusement et puis heureusement ça passera aussi tu vois, mais c'est quand même préoccupant parce que c'est de plus en plus fréquent quoi. Ça dénote quelque chose de fond dans la société française.
Exactement, c'est un signe de notre époque et c'est nul. On va donc s'enrouler dans le passé comme dans un plaid cocooning pour nous remonter le moral avec cette chanson sortie en 1977, l'année de la chronique que l'on va écouter ensuite. C'est une de mes chansons préférées, c'est Recollection sur France Inter.
Que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait,
et la petite fille chantait.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's life, ça va me servir d'aller me faire couper les tifs? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait.
Et Saint-Malo dormait.
Et les radios chantaient.
Et les radios chantaient.
Un truc qui me colle.
Collection de Laurent Voulzy, c'était en 77, l'année de la chronique vintage de la semaine.
L'humour, c'était mieux avant.
L'expérience proprement dite de diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants.
Mesdames et messieurs les souris, j'ai chéri, mon amour.
Pensez-vous que je pourrais aussi devenir humoriste? C'est un métier généralement réservé aux artistes moches.
Aujourd'hui, on se penche sur une personnalité iconoclaste du paysage audiovisuel français. Il a commencé en tant que journaliste pour faire un détour par le cabaret, le cinéma, c'est Jean-Yann. On lui doit des perles comme « La connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire » ou encore « J'ai déjà essayé de payer mes impôts avec le sourire, il préfère un chèque ». RTL, Europe 1, France Inter, il a écumé toutes les radios et il s'est fait virer de toutes ces radios-là. En 1977, il a signé pour France Inter un feuilleton radio dystopique, son titre « L'apocalypse est pour demain ». En voici le premier épisode.
Mon nom est Robin Crusoe. Je ne sais pourquoi j'enregistre ce récit. Personne ne l'entendra jamais. Ou alors quelque explorateur venu d'une lointaine planète, puisqu'il n'y a plus personne sur cette terre. Cette terre sur qui tout avait si bien commencé avant la civilisation automobile. Je me rappelle. Le dernier jour où je posais un pied sur le sol, j'apercevais derrière les vitres les yeux exorbités des conducteurs errants. 30 minutes. Ils ne pensaient qu'à cela, ne désiraient que cela, trouver une place pour se garer pendant 30 minutes. 30 minutes pour pouvoir accomplir leur journée mensuelle de travail. Autour de moi, les automobiles formaient une mer de toit, un océan de capots où déferlaient des vagues de chrome. Je sortis fébrilement mes clés, formais les 12 lettres de la combinaison permettant d'ouvrir ma portière et pénétrais dans l'habitacle. J'étais sauvé! Mais pour combien de temps? Je mis mon véhicule en marche. Pour regagner mon domicile, c'est-à-dire la place de parking qui m'était attribuée Porte d'Orléans, en partant de la place de l'Alma, il allait me falloir près de 15 jours. Un quart d'heure s'était écoulé depuis que j'avais mis la clé de contact et j'avais déjà parcouru près de 3 mètres. Écouter la radio chaque midi et chaque soir était une obligation. Et cela pendant 2 heures. Car pendant 2 heures, le grand préfet parlait. Le grand préfet était le maître du pays. Le pouvoir était entièrement entre les mains du préfet qui régnait sur les automobilistes.
Chien d'automobiliste, vous vous obstinez à rouler. Sachez que tout cela n'aura qu'un temps. Déjà, les dispositifs que j'ai mis en place détruisent 40% des conducteurs par an. Mais d'autres projets sont à l'étude. Lèpre de la civilisation, répugnant cloporte à 4 roues.
Le préfet continuait de parler, mais je n'écoutais pas. J'évaluais les chances qui me restaient de pouvoir traverser le carrefour avant que les feux ne passent au rouge. Le changement de feu s'effectuait toutes les 3 heures. Tant qu'ils étaient verts, on pouvait passer à l'orange. Un laser se mettait à fonctionner qui détruisait automatiquement toutes les voitures qui n'avaient pas eu le temps de franchir le carrefour afin de ne pas gêner les automobilistes qui roulaient dans l'autre sens. Je calculais rapidement ma vitesse par rapport à la distance qui me restait à parcourir. Aucun doute, j'arriverai au carrefour lorsque le feu passerait à l'orange. Ah, j'étais mal barré.
C'était Jean-Yann en 1977 dans L'Apocalypse est pour demain. Vous en avez pensé quoi, Emma Beaujean, Alexis Rossignol ?
C'est intéressant, c'est marrant comme exercice. Je trouve ça intéressant, la musique, l'importance de la musique, des sons, en fait. Je trouve ça trop marrant. Parce que comme je suis très nombriliste, ça me fait penser à moi. Mais ce que je voulais dire, c'est utiliser des sons dans des blagues, quoi. Enfin, voilà, j'aime bien ça.
Moi, j'ai trouvé que c'était assez lent comme rythme et on n'est plus habitué à ça. J'ai l'impression que maintenant, on est vraiment sur du court terme et du rire en cascade qui vient toutes les 10 secondes, sinon on s'affole un peu. Là, c'est plutôt presque contemplatif. On peut fermer les yeux, se laisser embarquer. Après, il n'a pas forcément raison, parce que finalement, aujourd'hui, je crois que la circulation est plus fluide qu'elle était il y a 30 ans. Mais ouais, c'est quand même un exercice sympathique et intéressant. Ouais.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
Salade of tomatoes et entrecôte bordelaise.
Avec du Coca-Cola.
Oh non, oui, Beaujolais nouveau.
Bravo Bilout.
Ça veut dire quoi Bilout?
Bilout,
ça veut dire Je veux dire petite quéquette. Petite quéquette.
Non, ça n'a rien à voir avec le caquette, hein, c'est juste affectueux.
En préparant cette émission, vous m'avez tous les deux parlé des comédies à la française. On vient d'entendre des extraits de vos films cultes. Vos premiers souvenirs de rire, c'est en famille, devant la télé. Votre envie de faire de l'humour seul sur scène, elle part d'un moment de rire partagé ? Alexis, par exemple ?
Non, pas du tout. Moi, c'est une révélation. Au Mexique, je vois un comedy club alors que je suis là dans un bar en train de boire une bière. Et je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire dans la vie, quoi. Mais alors, auparavant, aucune envie de faire ce métier.
Jamais.
Non, ça m'a pas traversé l'esprit du tout. Non, c'était... C'est arrivé comme ça, très tardivement, j'avais 28 ans, quoi.
Et t'as commencé à faire donc du stand-up en espagnol.
En espagnol et au Mexique, ouais. Pendant 3 ans et demi.
Et toi, Emma ?
Moi, la première fois que je fais rire des gens et que j'en ai conscience et que j'aime ça, c'est un truc presque de pouvoir tyrannique trop bizarre. Et surtout, c'est au lycée. Petit à petit, collège, lycée. Et en fait, c'est... je suis un peu pote avec tout le monde, tu vois. Et surtout, en fait, avec les profs. Et je me régale de conversations avec des profs avant ou après les cours.
Grosse faillotte, en fait.
Mais tu vois, de trop intéressant, quoi. Je suis en fait, on parle la même langue, mais pour de vrai. Et surtout, j'étais vraiment très mauvaise à l'école. Mais les cours où j'allais, c'est vraiment parce que, genre, je parlais avec les gens, quoi. Et ça m'intéressait vraiment. Tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est bien l'humour, c'est vraiment. C'est comme tricher, quoi, mais c'est accepté, c'est trop bien, j'aimais bien ça.
Pour revenir sur les films, il y a des comédies qui vous font marrer aujourd'hui ?
Alors, moi, j'aime bien regarder les vieilles comédies, ça me fait toujours autant marrer, puis surtout de les regarder en famille, parce que je trouve que mon père rit autant sur les films qu'on vient d'entendre que quand j'étais petit. Ça dure, quoi, ça fait toujours rire, et moi, ça me fait marrer de voir les gens rire. C'est souvent ça qui provoque le rire chez moi, d'ailleurs. Et ça me fait aussi pleurer de voir des gens pleurer, tu vois. Il y a un truc un peu de mimétisme. Mais après, ouais, il y a des comédies qui me font rire, mais moi, je suis plutôt du genre à rire intérieurement. C'est un peu chiant de regarder des vidéos avec moi, quoi. Peut-être tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, ça le fait pas marrer. Si, quand même. Ce qui peut me faire vraiment rire, c'est les chutes. Les gamelles, les gens qui se gaufrent, tu vois, vraiment les trucs inopinés, imprévus. Et quand ça fait pas mal, évidemment, mais tu vois, ça me fait vraiment rire, quoi.
Bonjour madame, petite question pendant le festival de Cannes. Que pensez-vous de tous ces journalistes qui profitent de ce festival de Cannes pour emmerder les vieux bourgeois réac qui votent à droite ?
Avec ceci, je vais vous donner un duplicata. Avec le duplicata, vous ne l'envoyez pas recommander au bureau régional en Namur. Eux vont vous renvoyer une copie du duplicata, vous nous le refaxez, vous vous faites un autre duplicata avec ce duplicata-là, vous le donnez au chauffeur de bus qui vous donnera votre abonnement.
Je suis Brigitte Fontaine.
Vous n'êtes pas la maquilleuse ?
Bah non, pas du tout. Et vous, qui êtes-vous ?
Moi, je suis Hugues Delatte, journaliste, célèbre.
Vous êtes censé m'interviewer.
Emma, t'étais pété de rire.
Ouais, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Ça traverse le temps, c'est trop marrant.
T'as reconnu les humoristes,
tu saurais me
les citer ?
C'est un test.
C'est absolument un test.
Moi, je sais que les caméras cachées de François Damiens, je trouvais ça génial de se déguiser, mais c'est hideux. Et j'étais le super pouvoir de ne pas rire à ses blagues, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça si drôle, vraiment. Je crois que c'est un des humains qui me fait le plus rire au monde. C'est trop fort, les Belges sont trop forts.
On a entendu La Fesse, François Damiens, Raphaël Mesrahi.
Ouais.
Alexis, ça te parle énormément la gêne, ça te plaît beaucoup le contretemps, le malaise, comme on vient de l'entendre. Tu sais expliquer pourquoi, toi ? Ça te touche autant ?
Ben parce qu'en fait, il n'y a plus de maîtrise. C'est-à-dire que celui qui crée le malaise, il est dans l'improvisation. Celui qui le subit, il est désarmé. Et en fait, tu vois la vraie nature des gens. Et tu te rends compte qu'il y a quand même de la sympathie. Il y a des gens qui, malgré... Parfois, tu te dis, putain, mais il va lui mettre un pain dans la tronche. Et en fait, non, les gens restent calmes. Et on est sur cette espèce de corde sensible où ça peut tomber, mais non, ça tient. Et après, les gens autorisent ce genre de la publication de la vidéo. Donc, ça veut dire que finalement, ils ont de l'autodérision sur eux-mêmes. Ils se sont fait prendre pour des teubés pendant... même parfois, ça dure 5 minutes. Mais ils se disent, bah, finalement, ça me fait rire moi-même. Et je trouve ça chouette parce que en fait, on est quand même aujourd'hui dans une société, et même depuis toujours, j'imagine, où on nous demande d'être en maîtrise, en contrôle. Et là, on sort. On est hors de tout ça. On est en non-maîtrise totale. Et je trouve que c'est trop rare, en fait, au quotidien. Et je trouve ça chouette que de temps en temps, ben, on se retrouve désarmé dans une situation qui, finalement, aboutit à quelque chose de sympathique. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Mais je préfère ça à ce que fait Baffy, par exemple, qui, lui, va être parfois dans une attaque un peu violente. Et ça, j'aime moins, tu vois.
Toi, t'as un personnage qui est un peu nonchalant sur scène.
Ouais.
Aussi, tu fais de l'absurde. C'est un peu aussi une sorte de gêne que tu mets parfois un peu sur scène. En tout cas, un espèce de contre-rythme, de contre-temps.
Je crois que ça, c'est ma façon d'être. Et c'est pas forcément volontaire.
Ouais.
Tu vois. Mais par contre, c'est vrai que quand j'écoute les camarades de François Damiens, je me dis, ah, c'est quand même dommage qu'il ait inventé ça avant moi. J'aurais aimé faire ça, si tu veux.
Ouais.
Attention, je sens des lacets.
Saint-Exupéry, je souffle.
À vous la main, Bruno.
Troubadour et jeune campion.
60 croutons d'entrée, bien joué, Bruno. Jules ?
Je termine mon bounty et je loue voyance et manigance.
À Bruno ?
Je regarde une piquipette et je...
Camoulox !
Camoulox, Cadet Olivia, qui ça parle ?
Ah, moi, c'est vraiment... Bah là, ça, c'est vraiment ce que... Je suis vraiment deg que ce soit pas moi qui crée ça, quoi. Là, c'est KDO, c'est vraiment les goûts, quoi. C'est vraiment tout ce que je rêve de faire. Qui a retué Pamela Rose, le 2, que j'ai jamais vu le 1, juste le 2. Toutes les blagues, je suis genre, tu sais, c'est des trucs où quand je regarde, des fois, je rigole même plus parce que je suis genre,
fascinée.
Mais c'est génial, vraiment, je suis...
T'es dans l'analyse du génie.
Ah mais ouais, mais mon rêve.
Moi, je pense que Cad et Olivier, ils seraient très forts sur les réseaux sociaux, s'ils commençaient aujourd'hui.
Absolument.
Toi et moi, t'es très suivi sur les réseaux sociaux, tu postes des vidéos de manière assez spontanée, mais t'es aussi monté sur les planches au Théâtre du Rond-Point, tu peux nous raconter ?
Oui, c'est vrai. Bah, je suis dans un espèce de procédé artistique, j'ai vraiment pas les mots, mais... avec du coup Adami. Et en fait, là, tous mes amis me parlaient de ça parce que donc, le metteur en scène Mohamed El Khatib préparait, dont j'adore déjà en plus à la base le théâtre, préparait une pièce de théâtre qui parle de stand-up, mais avec des comédiens. Et donc tous mes potes m'en parlaient, mais vraiment c'est ton année, c'est ton truc, vas-y, essaye. Et donc voilà, c'est une pièce de théâtre qui parle de stand-up, mais on est comédien dessus, mais en même temps avec des partitions qui ressemblent à des extraits de comédie club, de stand-upper, quoi. Et on parle, il y a par exemple un moment, il a la volonté vraiment de traverser le bide. Il y a des blagues, moi, que je continue à faire, et des fois je dis, putain, j'ai plus trop envie de les faire, je les avais faites à l'audition, mais c'est plus ce que je défends. Ça va bider, ce soir on joue dans telle ville, ça vote RN, ça n'a aucun sens de faire ça là. Il me dit, non, au contraire, ça a énormément de sens, et je veux que tu traverses ce silence si ça marche pas, quoi. Voilà.
Justement, Mohamed El Khatib, le metteur en scène, il dit « Le stand-up est considéré comme un genre mineur qui ne serait pas tout à fait du théâtre. Ceux qui pratiquent le stand-up ne se cachent pas derrière un décor, une mise en scène. » Ça te parle, toi, Alexis, ce qu'il dit ?
Ouais, j'ai tout un sketch dans mon spectacle actuel dans lequel je dis que j'ai un vrai complexe d'infériorité vis-à-vis des gens qui font du théâtre. Parce que nous, on n'acquiert pas une technique à travers un passage au conservatoire. Enfin, toi aussi, Emma, mais nous, les stand-uppers normaux et banals, on passe pas par ça et on sait pas placer notre voix, on respire pas avec le diaphragme, on fait pas des vocalises avant de monter sur scène. Il y a un côté un peu nonchalant qui, moi, me plaît parce que ben, c'est arrangeant quand t'es un peu flemmard. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, s'il y a quelqu'un du monde du théâtre qui vient, qui me voit jouer et qui voit... à quel point il n'y a pas de travail, de mise en scène derrière, bon, il va se dire, waouh, c'est quand même une sacrée arnaque.
Ouais, je sais pas, non.
Et
non,
au fond,
pas, ouais,
faut quand même assumer ça aussi, parce que c'est ça le genre, quoi.
Bah ouais, c'est ça. Non, au contraire, moi, je sais que mes potes qui font pas du tout de stand-up et qui vont en voir, pas forcément moi, mais qui vont en voir, ils sont hyper admiratifs de, parce que en tant que comédien, surtout sur un plateau de théâtre, tu cherches toujours d'être au présent. Et ça veut pas dire grand-chose. Et en fait, à la fois, c'est toute la logique de cet art-là, c'est vraiment être là maintenant. Et je trouve que le stand-up, c'est vraiment la pratique la plus complète vis-à-vis du présent. T'es obligé d'être là avec les gens. Tu vois, si tu mets des tongs, tu peux pas mentir aux gens. Tu mets des tongs, si tu parles lentement, tu parles lentement. Tu ne peux pas mentir aux gens. Et je trouve que c'est, enfin, par rapport au théâtre, moi, je trouve ça bien plus complexe de faire du stand-up que de faire du théâtre.
Emma, cette semaine, tu as purifié le studio 611 de la Maison de la Radio. Mais attention, c'était pour la bonne cause. J'en dis pas plus, mais je pense que c'est la première fois que Nagui recevait Dalida.
Je voudrais qu'on profite d'ailleurs, hein, je peux me permettre, de cette belle énergie et de ces sensibilités spirituelles autour de la table pour faire quelque chose qu'on fait pas assez souvent, je trouve. On va se poser, on va respirer et on va appeler les esprits. Ia, 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 Elohim. Oula, alors pardon, peut-être la chanson des Raéliens, c'est pas super approprié. Peut-être pas top de parler d'une secte à la radio, on va encore avoir l'arcom sur le dos, déjà qu'avec les gros mots, ils nous scient les couilles. Alors, je voudrais pas me fâcher avec eux, du coup je vais citer deux autres sectes, les Mormons et les fans de Kaamelott, tiens. Non, dites pas non, vous savez très bien que quand quelqu'un est fan de Kaamelott, ça se voit. Hold off, tu mets des bracelets de force. Bon, on peut se concentrer là, il y a trop de mauvaises ondes ici, il y a tellement de mauvaises ondes qu'on se croirait à la maison de la radio, MDR. Merci, Hold off. En fait, ça me vexe un peu que tu rigoles pas, mes jeux de mots, ça met extrêmement mal à l'aise. Il y a tellement de mauvaises ondes que moi je propose d'allumer une bougie. On m'a dit que j'en avais le droit à deux par chronique, que ça pourrait en fait raviver la flamme de certains auditeurs. Voilà, donc je vais me permettre, évidemment c'est avec la supervision technique de la production, si vous écoutez, ne faites pas ça dans votre propre studio de radio, hein. Et alors, pour communiquer avec le tout là-haut, il faut une planche de Ouija. Moi j'ai oublié ma planche, mais c'est pas un problème, j'ai une application, j'ai installé une app qui s'appelle Ouijap. C'est la même chose, donc on va pouvoir le lancer. Let's go, c'est parti, okay. On est tous ensemble. Esprit, es-tu là? Esprit, il se passe quelque chose, je sens qu'un grand esprit prend possession de mon corps. Laisse-moi adresser ton message aux mortels autour de cette table. Je crois que c'est Dalida. Je crois que c'est Dalida. Mon amour, il venait d'avoir 18 ans. Dalida, c'est bien vous. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. C'est bien moi, oui. Alors, prouvez-nous que vous êtes un spectre, un être sans enveloppe, un fantôme omniscient qui ne connaît ni les limites de la matière, ni celles du temps. Je ne sais pas comment vous prouver que c'est moi, Dalida, mais je peux vous prouver que je suis un fantôme. Par exemple, je peux vous dire que Bruno Pecchi a une énorme gaule sous la table. Enfin, Bruno qui bande, dites-moi quelque chose que je ne sais pas encore, Yolanda. Non, il n'y a pas dit gaule, il y a dit gold. Ah, une gold. Ah ouais, c'est hyper gênant, je crois que vous confondez Bruno Pecchi et Nagui Dalida. En même temps, c'est vrai qu'elle louche de malade, du coup, c'est très bon.
Non.
Et alors, attendez, mais alors pourquoi vous venez nous voir aujourd'hui, Dalida? Quelle est votre intention? Yes, oui, venez vous faire passer un message important, un message très important. Je suis venue pour revendre mes actions Alcatel. Ah, c'est un peu tard pour ça, Dalida. Non, il y a des connes, bacon. Il y a un petit sourire. C'est pour ça qu'il ne rate jamais l'émission Champs-Élysées présentée par Michel Drucker. Enfin, j'imagine que vous ne voyez pas de qui je parle. Vous êtes trop jeune. Ah si, il est toujours là par contre. Mais Dalida, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt là pour tailler la bavette plus qu'autre chose. Des millions de gens nous écoutent. Alors si vous avez un message à faire passer, c'est le moment, Dalida. Oui, il y a un message. Il s'adresse aux Parisiens et aux touristes qui vont voir ma statue à Montmartre. Arrêtez de me toucher, les nippas. Alors attention, l'équipage précise, c'est Dalida qui parle. Hein. C'est pas moi. Hein. Enfin, je veux dire, il faut demander avant, mais il y a de bonnes chances que je dise oui, moi. il doit y aller car je trouve ce sketch un peu trop long. Et il y a un autre ami qui veut vous parler. Hein, mais quoi, qui est là?
Pam, c'est Georges Brassens. Quand tu la caches, qui résonne dans le village. Pam, pam, pam.
Waouh, attends, il y a tellement d'énergie, il faut que j'allume une autre bougie. J'attends mon quota, je dois rendre l'antenne. Merci de m'avoir.
C'était Emma Beaujean qui est chaque jeudi à 11h50 dans la bande originale et qui me fait le plaisir avec Alexis Le Rossignol de passer l'après-midi avec moi. C'est la première fois que j'ai deux copains dans le studio, j'ai l'impression qu'on va pouvoir se faire un goûter. Alors pendant que je sors les tartines et le chocolat, on écoute Phoenix, la chanteuse Hope Tala sur France Inter.
You said don't hide, just walk in a straight line. Don't you apologize when you're right. You said straight spine, just keep on breathing and you'll be fine. So I took a breath in and I let myself shout. Felt the air on my skin and let my hair down. I don't really know if I'll come back to this town, but at least I'm here right now. With my heart between your hands in Phoenix, knew that I'd survive 'cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend. You say don't break, so just if you free fall, can't help but hit the wall. Promise it's not your curtain call. Swear there's so much more, so much that's wonderful, and I'll be by your side through it all. So just take a breath in, you can let yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here right now. With your heart between my hands in Phoenix, knew that we'd survive 'cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't break, just with my heart in your hands spilling over and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just
Oh, la jolie voix de Hope Tala sur France Inter.
Marine Baousson. L'humour d'Inter, l'hebdo, c'est toutes les semaines.
Oui, enfin, c'est une hebdo du coup, ouais.
Oui, voilà, il a tout compris. Comme mon invité Alexis Le Rossignol, il arrive que Jonathan Lambert fasse des remplacements dans la matinale et lundi, il a découvert le concept du placement de produits.
Minable.
Ah, déjà.
Pauvre abruti.
Oh oui.
Petit joueur. Oui, Nicolas, c'est ce que je me dis chaque jour devant ma glace depuis 4 ans. Car le 1er février 2021, France Inter me proposait pour la première fois une carte blanche comme aujourd'hui. Rémunérée d'ailleurs comme aujourd'hui. Comme quoi, il existe aussi une inflation à deux vitesses. Et j'invite Dominique Seux à se pencher sur ce phénomène. Ce jour-là, donc, je racontais ma glissade sur une plaque d'égout fabriquée par Saint-Gobain, présentant Pont-à-Mousson comme le berceau de la sidérurgie mondiale. Et sensible à cet hymne, le service de presse de Saint-Gobain me faisait livrer dès le lendemain un cadeau. Voilà. Une mini plaque d'égout en fonte véritable. Oui, oui. Je l'ai amenée ce matin. Je la décris pour les auditeurs. Hein, c'est une sorte d'objet circulaire de 12 cm de diamètre. Qui
lourd.
Pesait, oui, au moins 2,5 kg. Voilà. Donc, il peut servir de presse-papier.
Au fouser de cendrier.
Oui, aussi. Oui, ou d'objet contondant pour Mathilde Serrel, si par malheur elle se retrouvait coincée dans le même ascenseur que moi. Bon. Dès lors, j'avais compris le jeu de la com. En citant des marques au détour de mes chroniques, j'aurais pu me faire couvrir de cadeaux, mais j'ai été trop bon, trop con, j'ai voulu préserver l'image du service public. Saluant toutefois ma probité et passons à la chronique du jour. J'ai rendu visite à ma mère la semaine dernière. Bon, j'ai mis un peu de temps pour arriver chez elle car il pleuvait encore et c'est là que je me suis dit qu'avec une Jaguar F type 75 qui propose malgré ses 8 cylindres une consommation raisonnable, je serais arrivé à l'heure, mais passons. Ma mère m'ouvre la porte et me lance du tac au tac « T'en penses quoi de JFK ?» Alors je m'essuie les pieds sur le paillasson et retire mes baskets trempées. Oh, bah si seulement j'avais porté une paire de bottines de chez Weston en 6,5 avec la semelle en gomme, mais ça c'est une autre histoire.
Très bien.
Et maman de poursuivre, en déclassifiant les dossiers, on va peut-être en apprendre de belles. Oui, vous le savez, c'est l'une des lubies de Trump. Hein, et pas que, puisque d'après un sondage, 65% des Américains n'adhèrent pas à la version officielle. Alors c'est vrai que des zones d'ombre persistent. Pourquoi a-t-on renoncé à la bulle de plexiglas censée protéger le président et surtout l'assassinat de Lee Harvey Oswald 48 heures plus tard, qui nous privait de la version du suspect numéro 1 et qui mettait en évidence des lacunes dans le dispositif de sécurité. Non, c'est vrai, tout ça n'était pas très carré. Et quand je dis carré, comment ne pas évoquer les carrés Hermès ? Ces jolis foulards de soie fabriqués par un petit cellier de la rue Saint-Honoré dont j'aurais bien besoin pour me tenir chaud d'ici le printemps, mais je m'égare. Maman poursuit. C'est quand même étonnant que les archives nationales n'aient révélé que 99% des 5 millions de pages du dossier. 5 millions de pages, maman ? Oui, enfin, plus ou moins. Alors, plus ou moins. Alors évidemment, j'aime ma mère. Je l'aime plus que tout. mais moins qu'une Rolex. Ah. Car la Rolex est précise, elle. Et la Rolex ne porte pas de chaussons moches. Ma mère me remet dans un papier en alu un gratin qu'elle a cuisiné pour moi. Je glisse le plat dans mon vieux tote bag, mais ça ne rentre pas. Reconnaissez qu'en pareil cas, une malle Louis Vuitton est quand même bien utile. Ou alors, je ne sais pas, moi, un petit Vanity chez Goyard. Et je conclue, oui, maman, oui, on va peut-être découvrir des choses, mais penses-tu que Trump agisse réellement pour le bien commun ou pour servir ses intérêts personnels? Car en décrédibilisant la CIA, même 60 ans plus tard, Trump tente de se libérer d'un contre-pouvoir. En somme, sous couvert de transparence, Trump se sert du bien public pour son bien privé. Et sous couvert d'une chronique, je viens de faire exactement la même chose.
Jonathan Lambert, que vous retrouvez sûrement sur Le Bon Coin pour revendre tout un tas de merdouilles et parfois pour notre plus grand plaisir dans la matinale. Mais on se ferait pas un bilan de ma semaine ?
Ah, allez. Si, je t'en supplie.
Mesdames et messieurs, j'allais évidemment, comme toujours, partir sur une chronique à la fois sobre, incisive et pointue sur la discorde entre le PS et LFI. Mmh. Vous me connaissez, moi, la politique, c'est mon dada. Hein. D'ailleurs, trouvez pas qu'Emmanuel Macron s'abusait. Et bah, en plus, tu sais, tout le délire de Premier ministre, machin, avec des chiffres de 40, je sais pas quoi. Bref, j'ai dû interrompre ma séance d'écriture et ôter ma plume du vitriol, bâillonnant de rechef mon salutaire coup de gueule à cause d'une urgence. Non, pardon, c'est pas la bonne version. Oui, le club foot semi-pro de ma ville, Saint-Brieuc, a remporté le match face à l'équipe 5e de la Ligue 1, l'OGC Nice, en 8e de finale de la Coupe de France.
C'est énorme. Ouais.
Ah, je vous le dis, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Alors, Nice, on fait moins les malins. Vous avez peut-être le soleil, ok, vous avez peut-être le pouvoir d'achat, ok, mais votre mère, elle est tellement plate que quand sur le terrain, Saint-Brieuc attaque par vagues, vous êtes submergé. Brah, brah, hey, la pisse à la dire, en fait, c'est juste une crêpe dépressive, en fait. Hey, Pampagna, 0, galette saucisse, 1. Hey, dis donc, les anges, ils se sont noyés dans leur baie, non? Parce que la promenade des Anglais, c'est pas une promenade de santé, on dirait. Allez. Voilà, donc Saint-Brieuc a mis 2-1 à Nice avec un seul buteur, un héros national, le briochin Hugo Boudin, qui déclarait dans Ouest France le matin du match que son plus beau souvenir de foot, c'était quand il avait perdu 0-1 contre Lens. C'est chaud quand même, quand ton meilleur souvenir, c'est que t'as perdu. Voilà, c'est quand même qu'il faut réagir et il l'a fait, et ça a été salué très professionnellement sur l'équipe TV.
C'est une première dans l'histoire de retrouver Saint-Brieuc en quart de finale de cette Coupe de France.
Voilà, Mélisande Gomez et Pierre Clément voulaient saluer cet énorme Boudin.
Franchement, je me suis mordu les lèvres pour pas rigoler, donc c'est pas sympa.
Non, j'avoue, tout le monde y a pensé, mais moi je peux pas la faire cette blague, parce que moi il y a des chances que je le croise au marché, hyper gêné, dans la queue, pour acheter un pot à la championne du monde de confiture 2024. Ouais, on dirait pas comme ça, mais Saint-Brieuc, c'est devenu vachement attractif pour les winners. Enfin, les winners. Il y a pas que des numéros 10 dans notre team. Hein. À Saint-Brieuc, on n'a pas trop l'habitude de recevoir des grosses équipes, donc on fait un peu n'importe quoi, surtout quand on gagne. Bon, on s'est un petit peu fait engueuler, mais on était tellement heureux. Non mais qui aurait cru que Saint-Brieuc deviendrait une terre de football ? Déjà que la semaine dernière, on était dans tous nos états parce que le Real Madrid a privatisé le Novotel de la ville parce qu'il jouait contre Brest à Guingamp. Je crois bien que chacun des joueurs qui y dormait valait plus que l'hôtel, voire pour certains que la totalité de la ville. Après attention, hein, c'est le Novotel le mieux noté d'Europe. Et c'est une vanne, ouais, c'est vrai. Tout le monde le dit, hein. Si tu veux bien dormir en Europe, c'est à Saint-Brieuc qu'il faut dormir. Bon, après tu vas peut-être te faire un peu chier, mais tu dormiras bien, pis. Il y a les meilleures confitures du monde, évidemment. Et alors, ce qui est encore plus cocasse, c'est de se dire que cet hôtel a été construit dans un ancien centre des impôts, dans lequel ma mère a travaillé. Ah, du coup, j'ai pensé deux choses. D'abord, un, si ça se trouve, Kylian Mbappé, il a dormi dans le bureau de ma mère. Et deux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire venir des millionnaires aux impôts, quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, bravo le Stade Briochin. Les prochains à tomber, c'est le PSG, à Saint-Brieuc encore, le 26 février. Bon courage, les mecs. Notre équipe, elle est solide. Vous allez vous casser les dents sur le boudin brioché. Briochin. Des ballons ronds, vive la Bretagne! Ils sont forts en ballons ronds, vive les Bretons! C'était votre émission préférée, l'humour d'Inter, l'hebdo, l'émission qui vous donne envie d'aller vous abonner au fil de podcast L'Humour d'Inter sur l'application Radio France. Merci Emma Beaujean.
Merci de m'avoir invitée.
On te retrouve dans la bande originale et puis tu joues ton spectacle Attends-moi, j'arrive au Théâtre des Mathurins à Paris les vendredis à 19h. Mm-hmm. Tu seras aussi au Fou Rire de Bordeaux le 19 mars et puis au Théâtre de la Croix-Rousse. C'est en
Lyon. C'est en avril, semaine du 10 avril si je dis pas de bêtises.
Merci Alexis Le Rossignol également.
Merci à toi pour l'invitation.
Ton spectacle Le sens de la vie est en tournée dans toute la France à Aix-les-Bains, Aix-en-Provence, France, donc tout type d'ex. Il y a Gap aussi, bref. Et puis tu seras aussi le 10 mai à Paris pour une représentation exceptionnelle à la Gaîté Montparnasse. Merci à tous les deux d'avoir été là.
Merci.
C'était l'humour d'Inter, l'hebdo, une émission préparée par celle qui va dans le bon sens, Louise Tempéro. Lucie Lemarchand, qui est toujours là où on ne l'attend pas, était à la réalisation. Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale et aux petites citations inspirationnelles. Le sage Loïs Moreau était à la technique et elle a été documentée pour la dernière fois par Delphine Desbiens et l'Antennina. Merci Delphine.